Place Info.
Direction tout de suite le Centre européen du judaïsme avec la prise de parole d'Emmanuel Macron.
Monsieur le Président du Consistoire central israélite de France, mesdames et messieurs, la République que vous venez de porter dans votre prière, cher grand rabbin, est faite de continuité. Les pouvoirs passent au gré des légitimes respirations démocratiques, mais les projets restent au-delà des alternances lorsqu'ils sont conduits avec constance, enthousiasme au sens étymologique du terme, et s'imposent progressivement comme des évidences. Aussi suis-je très heureux d'inaugurer ce Centre européen du judaïsme et, ce faisant, de m'inscrire dans les pas de plusieurs présidents de la République, de plusieurs premiers ministres, ministres de l'Intérieur, maire de Paris, présidente et président de conseil régional, qui tous, par-delà les différences de sensibilité, ont accompagné ce projet et fait que nous sommes là. La République est faite de continuité. Et les valeurs restent aussi. Je suis présent parmi vous au nom d'un principe, la laïcité, vous l'avez l'un et l'autre évoqué, qui vit aussi par des moments tels que celui qui nous réunit ce soir. La laïcité n'est ni la négation du fait religieux, ni un outil de lutte contre les religions, mais une valeur qui complète le triptyque républicain autant qu'il épouse et renforce chacun de ses piliers. La laïcité, telle que la concevait Aristide Briand, est d'abord un principe de liberté. Et comme le plaidait Jaurès, un principe de liberté organisé par la loi et le respect de l'ordre public. Et l'héritage consistorial, cher Joël Mergui, cher Haïm Corsia, revisité par la loi de 1905, en porte un beau témoignage. La laïcité est un principe d'égalité. Dans notre République, la religion, jamais, ne peut justifier qu'un citoyen se soustrait à la loi. Mais croire ou ne pas croire ne saurait constituer non plus une cause de discrimination. La laïcité, enfin, est un principe de fraternité qui doit vivre en chaque Français comme une boussole dans son rapport aux autres citoyens, quelque chose qui a trait au fond à une forme de civilité française. Et je tenais très simplement à le rappeler en ce moment de la vie de la nation où cette valeur d'union et de cohésion est parfois dévoyée, instrumentalisée par ceux qui, voulant semer la haine et la division, s'en servent pour mener le combat contre telle ou telle religion. Et je veux, comme vous l'avez fait ce soir, à côté de la synagogue dans laquelle nous étions ensemble tout à l'heure, avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne lors de l'attaque d'hier, parce qu'ils croyaient et venaient prier. La République fait bloc autour d'eux, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent. Cher Joël Mergui, si l'adage latin « ad augusta per angusta » a quelque pertinence, définitivement, ce Centre européen du judaïsme connaîtra, à n'en pas douter, un grand succès. Car avec l'ensemble des membres du consistoire, l'Assemblée générale, le bureau, vous avez dû franchir de nombreux obstacles pour que cet édifice rêvé par le grand rabbin Joseph Citruc, et je salue ici son épouse Danielle, puisse enfin voir le jour. Il a fallu trouver un terrain, et je m'associe aux remerciements formulés à l'instant à l'endroit de la ville de Paris. Attirer des financements, et je tiens à saluer l'ensemble des donateurs qui, partenaires institutionnels, associations, fondations, cher David de Rothschild, cher Éric de Rothschild, cher Patrick Drahi, ont rendu ce projet possible. lever tous les freins juridiques et réglementaires. Et je sais combien ils demeurent nombreux, malgré l'action résolue des gouvernements successifs, pour les effacer. Durant plus de 10 ans, donc, en plus de vos fonctions de président du Consistoire central et de président du Consistoire de Paris et d'Île-de-France, vos jours, souvent vos nuits aussi, ont été, cher Joël Mergui, ceux d'un entrepreneur prenant tous les risques pour faire aboutir un projet auquel il croit. À cette différence, sans doute, par rapport aux entrepreneurs de droit commun, si j'ose cette formule, que vous ne recherchiez, vous, ni part de marché, ni profit, simplement agir pour cette institution riche de 210 années d'histoire qu'est le Consistoire, pour les Juifs de France, plus encore, permettez-moi de le dire ici, pour l'intérêt général, pour la République. Vous l'avez dit, les années qui scellèrent définitivement le destin de ce projet furent particulièrement difficiles pour vous, pour l'ensemble des Juifs de France, pour la nation tout entière. Hiver 2006, le calvaire et le meurtre d'Ilan Halimi, et je me souviens avec émotion de la souffrance de sa famille, des années plus tard, de son espérance aussi. Mars 2012, l'effroyable tuerie de l'école aux Aratora à Toulouse. Janvier 2015, les attentats de Paris et en particulier celui de l'hypercacher. Puis cette résurgence de l'antisémitisme qui marque la nation d'une tache indélébile, les assassinats de Sarah Halimi, de Mireille Knoll, les insultes, les menaces, les actes antisémites qui, hélas, ne cessent de se multiplier, les quartiers perdus, les peurs qu'on finit par accepter. Dans ce contexte, beaucoup auraient pu baisser les bras, succomber au défaitisme, et tant se serait demandé à quoi bon construire, à quoi bon continuer. Pas vous. Pas vous tous, au fond, à travers Joël Mergui. Pas nous. Avec le soutien plusieurs fois renouvelé de la République, en puisant aussi dans votre foi, et je crois pouvoir le dire, dans l'amour de votre patrie, vous avez tenu bon. Parce que vous saviez aussi, et vous savez, combien les uns et les autres, nous sommes profondément attachés à cette place, à ce rôle, à cette histoire que vous avez rappelée. Vous savez combien je tiens à ce combat contre l'antisémitisme contemporain. Il y a 8 mois, j'étais parmi vous, cher Président, pour prendre quelques engagements clairs, dire la détermination de la nation, du gouvernement, dans cette lutte contre l'antisémitisme et le silence qui parfois l'accompagne. Le gouvernement et le Parlement ont commencé d'agir. Les engagements ont été tenus et seront parachevés. Mais au-delà de ces réponses, au-delà de ces actions, vous aviez aussi conscience que le moment que notre nation traverse justifiait davantage quelque chose peut-être de plus grand que nous, de plus puissant que nous, un acte de résistance, un acte aussi de confiance, celui qui nous réunit aujourd'hui. Alors même que tout conduit à douter, au moment où l'histoire revient avec son pas lourd et la bête quaternaire se réavance pour nous menacer. Nous savons que dans ces moments-là, réaffirmer la confiance dans la République et dans ce que nous sommes est plus important que jamais. Le faire à Paris, le faire en France, le faire pour l'Europe, au moment où l'antisémitisme en France, en Allemagne, dans tant de pays ressurgit, où les extrêmes et les discours de haine ressurgissent, c'est décidé de ne pas se résoudre. Alors merci pour cela. Car résister, ça n'est pas simplement protéger, continuer de le faire, comme le ministre et avec lui l'ensemble de nos forces de l'ordre continueront. Ce n'est pas répondre, non, c'est aussi convertir les cœurs et les esprits. C'est ce qui se fait ici, dans ce lieu ouvert sur la ville, ouvert sur la société. Un centre qui, cher Haïm Korsia, est désormais doté de murs, tout proche du boulevard de Reims, si je ne crois pas au hasard objectif, et qui trouvera, j'en suis sûr, un souffle à la source d'une culture, le judaïsme, qui a coulé dans les veines de l'Europe durant plus de 2 millénaires et a contribué à forger notre civilisation. Dans ce centre, donc, les visiteurs pourront découvrir in vivo, comme nous venons de le faire ensemble, sculptures, peintures, œuvres musicales, pièces de théâtre, projections cinématographiques, photos, débats, toute la richesse et la pluralité du judaïsme européen. Mon rôle n'est évidemment pas de m'immiscer dans la programmation qui sera celle du centre. Je crois pouvoir simplement deviner sans risque que seront ici proposés quelques beaux voyages dans l'espace et le temps à la découverte de trésors enfouis de notre culture commune. Je suis sûr qu'on y voyagera à Cordoue au 9e et 10e siècle, où les Juifs qui, malgré leur statut de dhimmi, développèrent une culture extraordinaire, géographie, médecine, mathématiques, philosophie, poésie, faisant alors le rayonnement de toute la région. Et l'Espagne vibre encore des noms du philosophe Salomon Ibn Gabirol, du poète Moïse Ibn Ezra, du médecin Judas Alevi, qui incarne l'âge d'or de ce Moyen-Âge ibérique. Je sais qu'ensuite, vous les emporterez jusque dans la Champagne des 11e et 12e siècles, protégés par les comtes de la région, Rachid III y écrivant des commentaires talmudiques qui, bientôt diffusés dans toute l'Europe, contribuèrent à ce que les historiens appellent la petite Renaissance et sont venus jusqu'à nous et renferment, ne l'oublions jamais, parmi les plus anciens écrits comportant des mots en langue française. Vous les emmènerez dans l'Italie des 14e et 15e siècles, là où, après les expulsions décidées en Espagne et en France, de nombreux Juifs étaient allés s'installer, à Venise, Gênes, Florence, cités abritant des personnalités comme Emmanuel Ben Salomon, poète et grammairien ami de Dante, Abraham Farisol, écrivain et géographe florentin, ainsi que des dizaines et dizaines d'imprimeurs hébraïques qui sont parmi les précurseurs de la Renaissance italienne. Et au fil des expositions, des débats, le voyage ne cessera, j'en suis sûr, de se prolonger. Il passera par l'Europe centrale. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les Juifs d'Europe vécurent une forme d'âge d'or. Et nous célébrerons l'année prochaine les 300 ans de la mort du Gaon de Vilna, l'immense érudit. Par la France, de la fin du XVIIIe siècle où la République s'accomplit pleinement, avec l'accès des Juifs à la citoyenneté tant défendue par l'abbé Grégoire et Mirabeau. Par la Hongrie du XIXe siècle, où l'émancipation des Juifs par l'empereur François-Joseph leur permit d'investir les arts, les sciences, l'industrie et de participer à l'avènement d'une forme de modernité hongroise. Et puis les persécutions devenant de plus en plus fortes en Europe centrale, la France à nouveau au début du XXe siècle, Zadkine, Chagall, Soutine, et les refuges trouvés auprès de l'école de Paris et dans tant de lieux. Et même ces ghettos où durant la Seconde Guerre mondiale, la culture judaïque résista aux pires atrocités. Les voix d'une chorale chantant dans le ghetto de Varsovie, la mélodie d'un orchestre jouant dans le ghetto de Kovno, en Lituanie, toujours plus forte que l'abîme. La Torah au cœur des ténèbres, pour reprendre le livre du rabbin Ephraim Oshri. Tant de persécutions, tant d'exils, tant d'histoires tragiques, mais tant d'entre là, inexorables, avec notre culture européenne. Et toujours, même au cœur de l'horreur, tant d'espoir, tant d'œuvres exceptionnelles de l'âme et de l'esprit. Toujours résister. Par la beauté, l'intelligence, l'ouverture. Tant de fils de savoir et de culture tissés entre les différents pays d'Europe, par la diaspora juive, par le peuple juif. Oui, parce qu'il a côtoyé tous les peuples et toutes les terres d'Europe, le judaïsme a joué un rôle primordial dans l'unité du continent, pour bâtir ce qu'est la pensée, la civilisation européenne, pour forger au fond ce que nous sommes. Oui, tous les Européens de l'Atlantique à l'Oural sont un peu des enfants de ces passages du judaïsme. Oui, il est une part juive de l'âme européenne, façonnée dans les temps sombres, des humiliations et des expulsions, autant que dans les jours heureux, des protections et des émancipations. Et qu'un centre soit là, bâti aujourd'hui, pour le dire haut et fort, pour mettre des faits, des mots, des œuvres sur ce que nous appelons parfois confusément la civilisation judéo-chrétienne. Le président de la République française que je suis, européen passionné que je suis, ne peut l'accueillir qu'avec une immense bienveillance. Il ne s'agit pas simplement de replacer à leur juste place des trésors cachés, des vérités enfouies, même si le combat de la connaissance contre l'ignorance, de la lumière contre l'obscurité, seront toujours les miens, comme ils sont les vôtres, cher Joël Mergui. Mais présentant aux visiteurs de ces lieux quelques grandes figures du judaïsme européen, présentant ce que Emmanuel Lévinas appelait des visages, je crois que se joue ici aussi quelque chose d'un combat universel. L'éducation a une forme d'éthique de la responsabilité. Lévinas, qui avait quitté Kovno, que j'évoquais tout à l'heure, pour rejoindre la France, mourir à Paris en 1996, après une œuvre immense, concevait le visage qui est au cœur de votre projet et au fond de ce que, depuis tout à l'heure, nous sommes en train de nous dire, comme la figure ultime de l'altérité. Le visage s'impose à moi sans que je puisse rester sourd à son appel, ni l'oublier, écrivait-il, sans que je puisse cesser d'être responsable de sa misère. C'est précisément ce qui va se nouer ici, dans ce centre européen du judaïsme. Par le dialogue avec les grandes figures du judaïsme, chaque visiteur pourra en effet éprouver en lui cette conscience de la responsabilité qui nous unit aux autres. Et il y a d'ailleurs dans ce rapport au visage et à l'altérité chez Lévinas une part revendiquée aussi d'innocence, parce que nous avons eu des mots graves et la période les justifie. Mais il y a aussi quelque chose d'irréductiblement spontané, léger, innocent dans le rapport à l'autre. C'est cette part d'altérité que j'accepte. Et je crois que ce lieu aura cette importance par son éveil aux arts, par l'engagement que vous avez décidé d'y accorder, par des enfants qui viendront y mettre le désordre et s'ouvrir à ce visage de l'autre, d'être tout à la fois la conjugaison de cette éthique de la responsabilité et de cette innocence dont nous avons aussi besoin. L'un et l'autre avaient eu ces mots pour nos enfants. Je les partage. Mais laissons-leur cette part d'innocence. Prenons-nous la lourdeur des temps. Et au fond, ce que le judaïsme appelle amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même, le Lévitique, c'est ce que la République française appelle la fraternité. Alors merci. Merci, cher Joël Mergui. Merci, mesdames et messieurs, les membres du consistoire, donateurs et partenaires de ce combat mené, de ce combat déjà gagné, de ce cadeau fait à la nation et au continent, de démontrer qu'on peut à la fois aimer sa religion, sa culture, et aimer sa patrie, chérir la République. Merci à chacune et chacun d'avoir rendu possible ce beau et grand projet, symbole d'un judaïsme ouvert sur la ville, sur la société, sur le monde. Merci aussi à ceux qui le feront vivre, au-delà de nous, parce que le judaïsme est aussi la transmission, et que ce centre est un acte de foi dans le futur, une promesse d'avenir. Et merci ce faisant de contribuer à faire vivre cet humanisme dont la France, l'Europe, ont tant besoin, et qu'il y a quelques siècles, le judaïsme, avec quelques autres courants philosophiques et religieux, a contribué à faire naître sur notre continent. Je relisais, avant de venir vous voir, quelques écrits de la philosophe Simone Veil, la philosophe. Elle a eu des mots très durs sur le judaïsme. Et elle a souvent évoqué cette notion d'enracinement que l'époque contemporaine a parfois convoquée, je crois pouvoir le dire, à tort en faisant référence à Simone Veil dans les termes où on l'a utilisé. Elle a des mots très durs sur le déracinement des Juifs. Et elle a une phrase dans un de ses écrits terrible où elle dit « Les Juifs sont les déracinés et au fond, c'est ce qui les met dans le même lot que les Lumières, 1789, l'Europe et la République. » Puis après, elle continue, elle va jusqu'à la face sombre de la République en parlant du colonialisme. Et elle crée, ce faisant, quelque chose d'une part qui ne m'était pas apparue si clairement jusque-là, de ce qui, en effet, lie les Juifs à la République. Ce qu'elle appelle le déracinement, c'est le fait qu'il n'y a pas un lieu fixe, unique, qui épuise tout. Qu'il y a d'abord et avant tout, toujours, la dignité de l'homme comme guide. Qu'il y a ensuite l'hospitalité qui fait que décider d'habiter un lieu est toujours déjà l'ouvrir à l'autre. Et qu'il y a toujours un rapport à l'universel. Dans ce triptyque qui, je crois, construit aussi une part de vérité du judaïsme, il y a une part de vérité de ce qu'est la République. Peut-être que pour certains, la République est déracinée. Je crois très profondément que partout où il y a la dignité de l'homme libre, l'hospitalité et le goût de l'universel, elle est là. Et ce centre en est la formidable métaphore. Alors, longue vie au Centre européen du judaïsme. Vive la République et vive la France.
Voilà donc le discours d'Emmanuel Macron d'inauguration de ce nouveau centre européen du judaïsme dans le 17e arrondissement de Paris. Nous allons y consacrer une large part de ces informés de France Info avec notre quatuor autour de la table, avec vous Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, le magazine d'investigation sur l'Europe sur Arte le dimanche, avec vous Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, et Monder Abdennader, cofondateur des Napoléon Léon, réseau social dédié aux acteurs de l'innovation, enseignant à Sciences Po. Long discours, à peu près 25 minutes d'Emmanuel Macron, consacré à, eh bien, à l'histoire du judaïsme, de la diaspora juive et du peuple juif, à la lutte également contre l'antisémitisme, toujours résister, a répété le chef de l'État, qui a évoqué en ouverture, eh bien, l'attaque contre la mosquée de Bayonne.
Et je veux, comme vous l'avez fait ce soir, à côté de la synagogue dans laquelle nous étions ensemble tout à l'heure, avoir une pensée amicale et républicaine pour nos compatriotes gravement blessés à la mosquée de Bayonne lors de l'attaque d'hier, parce qu'ils croyaient et venaient prier. La République fait bloc autour d'eux, comme elle fait bloc autour de chacun de ses enfants, lorsque l'obscurantisme et l'intolérance réapparaissent.
Nora Hammadi, ce discours du chef de l'État donc intervient en pleine polémique effectivement sur le voile et au lendemain de cette attaque donc contre la mosquée de Bayonne, difficile pour lui de ne pas l'évoquer en ouverture.
Ah mais de toute façon, cette parole était attendue. On voit que depuis plusieurs semaines aujourd'hui, cette question ne sort pas des têtes de gondole médiatiques, politiques. On avait aussi aujourd'hui, et je pense qu'on en parlera, une proposition de loi sur l'interdiction du voile pour les accompagnatrices scolaires qui était proposée au Sénat par le groupe Les Républicains. On voit qu'il y a une forme de d'hystérisation en fait de ce débat qui s'est malheureusement très mal fini hier par cet attentat, parce qu'il faut peut-être aussi nommer les choses. Donc il était évident en fait que cette parole présidentielle était attendue. On attendrait presque même plus que cette ode en fait au judaïsme qui a été son discours dans le cadre en fait de cette ouverture du centre européen soit peut-être suivie dans quelques jours, dans quelques semaines par quelque chose d'à peu près similaire sur l'islam de France.
Oui, alors Albert Zenou, hein, le chef de l'État recevait lundi le CFCM. Il y a ce discours le lendemain devant la communauté juive de France, nous sommes dans une séquence étonnamment religieuse.
Étonnamment religieuse, oui. En même temps, l'effet le pousse à parler de ça. Comme dit Nora, donc l'attentat contre la mosquée de Bayonne, la controverse sur le voile, l'attentat contre la préfecture de police. Donc il y a ce moment, un momentum religieux, mystique, spirituel auquel le président s'est donné. D'ailleurs, dans son discours qui était assez beau, il a rappelé les principes de la laïcité, même si ce n'est pas le discours qu'on attend depuis des mois voire des années, le grand discours sur la laïcité que devait donner le président. Il a rappelé quand même que la laïcité, c'est la liberté, c'est un principe de liberté, c'est un principe d'égalité, c'est un principe de fraternité. Donc la devise de la France. Donc il a rappelé ça. Et c'était un moment important de le faire. Et je pense que c'était bien aussi qu'il rappelle, qu'il rende hommage aux victimes de l'attentat de Bayonne hier, oui, dans ce lieu, dans un lieu là pour le coup assez chargé d'histoire et de sens.
Et Chloé Morin, vous qui avez également suivi ce discours du chef de l'État, il y a eu ce rappel appuyé aux valeurs de la République, rappel nécessaire.
Oui, c'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on reprochait à Emmanuel Macron de ne peut-être pas avoir donné sa propre définition et sa propre conception de la laïcité. Il faut rappeler que dans sa majorité, il y a différentes conception de la laïcité ou différentes variantes de la laïcité qui viennent à s'affronter. D'un côté, il y a eu le ministre de l'Éducation qui a une vision très dure de la laïcité. Et puis de l'autre,
très
il y a strict, des...
Hein, très strict, hein, de Jean-Michel
très
Blanquer. Oui.
Strict, oui, je ne sais pas comment il faut la qualifier, mais en tout cas, voilà, qui a dit que le port du voile n'était pas souhaitable dans la société, donc c'est une vision. Et puis il y a également dans la même majorité des députés comme Aurélien Taché par exemple, qui eux défendent une conception très j'allais dire libérale de la société et donc une vision beaucoup plus ouverte ou de la laïcité. Et dans ce débat-là, c'est vrai que Emmanuel Macron n'avait pas vraiment tranché. Beaucoup l'appelaient à donner sa vision de la laïcité. Et là, ce que je note, c'est que il commence par définir la laïcité par une double négation. Ça n'est, il dit, la laïcité, ça n'est ni la négation du fait religieux, ni un outil de lutte contre la religion. Et finalement, il donne effectivement une définition en disant c'est un principe de liberté, d'égalité, de fraternité, mais on se demande comment il tranche.
Oui, entre, on est toujours dans une sorte de en même temps.
Hein, oui, c'est très succinct. Oui. Albert Zenoui. Oui, très succinct. On attendait un grand discours. Là, ça n'est pas le discours sur la laïcité que tout le monde attendait.
Mondher Abdennader, vous êtes frustré après ce discours, pardonnez-moi, à l'endroit plutôt de la clarification très attendue du chef de l'État sur ce sujet de la laïcité.
Frustré, non. Mais je trouve qu'il a répondu. C'est-à-dire, quand on dit clairement que la laïcité est fortement liée aux valeurs de la République, alors c'est peut-être pas assez explicite, mais peut-être qu'il dit que la loi liée à la laïcité est extrêmement claire, qu'aujourd'hui, je pense qu'on est parti pour peut-être pas légiférer, même si c'est un sujet qui est sur la table, mais moi je pense qu'il n'y aura pas d'autre loi pour préciser la laïcité. Et rattacher la laïcité au principe de la République, c'est une réponse claire, c'est-à-dire on a la liberté de culte, on respecte toutes les religions, il faut que l'égalité opère et il ne faut pas plus légiférer que ça, parce que sinon on tombe dans quelque chose qui va compliquer notre vie. Moi j'aime bien ce qu'a dit quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui a fait une étude sur l'islam, qui est Hakim Al-Karoui, qui dit que ce voile, c'est vraiment le miroir qui nous renvoie les échecs de notre société et notre incapacité à promouvoir les valeurs de la République. Suffisamment.
Nora Madi.
Alors, il a quand même rappelé, et c'est ça qui est aussi intéressant, mais c'est une phrase qui pourrait, pour le coup, être déclinée dans le cadre d'un grand discours. Alors, reste sur la laïcité, moi, je dirais qu'il devrait peut-être plutôt faire un discours sur le vivre ensemble. Et c'est en ça que ça peut être intéressant, c'est de sortir justement de cette hystérisation, de cette question du voile. Parce qu'en fait, le voile n'est finalement que l'oripeau d'un débat qu'on doit avoir sur qu'est-ce qu'être français et comment cette question de l'identité, en fait, c'est aussi particulièrement crispé. Là, ce qu'il vient de nous dire également autour de l'identité judéo-chrétienne de l'Europe et de cet héritage doit être aussi ouvert et réinterrogé, en fait, à l'aune de tous ces apports, en fait, de société, de l'immigration, etc., etc. Mais il a quand même rappelé que cette valeur d'union et de cohésion est aussi instrumentalisée pour mener un combat contre telle ou telle religion, et que ça, il le rejetait. Donc, je pense qu'il a quand même posé des principes, et ça, il faut entendre que derrière, il n'y aura peut-être pas effectivement de législation supplémentaire, mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas s'arrêter au milieu du guet.
Alors, sur le combat contre les religions, il y a ce mot que répète le chef de l'État, c'est résister, puisqu'il a éminemment évoqué la lutte contre l'antisémitisme. Emmanuel Macron.
Vous savez combien je tiens à ce combat contre l'antisémitisme contemporain. Il y a 8 mois, j'étais parmi vous, cher Président, pour prendre quelques engagements clairs, dire la détermination de la nation, du gouvernement, dans cette lutte contre l'antisémitisme et le silence qui parfois l'accompagne.
Alors Albert Zenoui, il faut rappeler le cadre de l'intervention présidentielle devant ce tout nouveau centre européen du judaïsme, d'où cette évocation de l'antisémitisme. Et plus largement, le chef de l'État, au fond, évoque ces religions qui sont, au fond, la cible des haines aujourd'hui et des lignes de fracture qui traversent la société.
Oui, il revient sur un élément important aujourd'hui en France, le fait religieux... qu'on a cru qu'on pensait pouvoir évacuer pendant des années, revient en pleine figure à tout le monde, et il y a une réalité et qui ne plaît pas toujours à tout le monde. Alors c'est vrai que l'arrivée de l'islam comme deuxième religion de France ne plaît pas à tout le monde, mais c'est un fait, et la lutte entre les religions, la lutte entre les différents groupes ne peut pas semer la panique et ne doit pas désorganiser la République. Moi, je reviens sur la fin de son intervention où il évoque, en fait, il donne, j'ai l'impression qu'il donnait comme exemple à l'islam de France la construction du judaïsme à la française, avec un consistoire établi, bon, certes depuis Napoléon, donc il y a une vraie antériorité.
Vous voulez dire en creux, il y a une sorte de démonstration.
En creux, il y a une démonstration de ce que pourrait être aujourd'hui. L'islam, vers quoi l'islam pourrait tendre, en tous les cas faire quelque chose pour s'intégrer. Et il y a une phrase que j'ai notée, c'était aimer sa religion, en parlant du judaïsme, aimer sa religion, c'est aussi aimer sa patrie. Donc il n'oppose pas religion et amour de la patrie. Et ça, je pense que c'est très important.
Chloé Morin, vous qui observez le contexte international, nous sommes dans une situation d'urgence aujourd'hui par rapport aux faits religieux et par rapport aux menaces qui pèsent sur les uns et les autres.
Vous parlez de l'antisémitisme et des actes anti-musulmans.
Absolument.
Non, moi, ce qui me frappe, en fait, c'est le contexte de ce discours, parce qu'on débat du voile, de la place des musulmans en France, etc. Et puis là, il nous a parlé d'un élément qui n'était pas dans l'actu chaude, mais qui reste un élément important. Ce sont les actes antisémites. Les chiffres du ministère de l'Intérieur pour l'année dernière montraient une augmentation de 75%, je crois, des actes antisémites. Et c'est vrai que du coup, toute une partie de son discours semble un peu hors contexte. Mais c'est vrai que en termes de lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat de longue haleine qui avait déjà été mené par ses prédécesseurs. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un combat, effectivement, que l'on retrouve dans d'autres pays. On évoquera probablement pas le Brexit ce soir, comme c'était prévu, mais par exemple, Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition, est mis en difficulté politiquement pour des questions d'antisémitisme dans les rangs du parti du Labour. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Ça montre qu'on n'est pas complètement isolé dans ce.
Nous ne sommes pas complètement isolés dans ce scénario-là. Nora Madi, est-ce que vous, comme notre ami Albert Zenou, vous y voyez une sorte de description en creux, comme vous l'avez dit Albert, de ce que pourrait être l'organisation du culte musulman en France? Il y a quand même le CFCM qui existe déjà. Hein.
Oui, qui était d'ailleurs une création de Nicolas Sarkozy. Je voudrais juste faire une incise pour dire qu'effectivement, on le voit par ailleurs en Pologne. Je reviens de Pologne où j'étais il y a 3 semaines, dans le camp d'Auschwitz-Birkenau où j'ai suivi une classe de terminale. Vous vous retrouvez aujourd'hui à Varsovie en fait avec une classe politique qui est ouvertement antisémite et avec un directeur du musée juif, en fait le musée juif de Varsovie, qui a été démis de ses fonctions et que les ministères en fait refusent de nommer encore une nouvelle fois. On a vu aussi en Allemagne des attentats contre la communauté juive. Enfin, en fait, la France n'est pas juste seule à être face à cette réalité. Pour vous répondre, enfin, le CFCM, en fait, c'était déjà une création de l'État pour faire en sorte de structurer l'islam. Je rappelle que l'islam n'a pas de clergé. L'islam est dans une structuration qui fait que le croyant est en direct, entre guillemets, avec Dieu. Donc la difficulté, c'est qu'on veut, dans une vision complètement verticale, structurer l'islam de France. On a essayé de le faire, on a le CFCM, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et puis tout ceci ne réglera pas la question fondamentale qui est... Comment, en fait, faire en sorte de parler à tous les musulmans de France? Enfin, ce n'est même pas entendable, ce n'est pas possible. C'est comme se dire qu'on va parler à tous les juifs de France ou à tous les chrétiens.
Vous voulez dire que c'est contre nature, finalement?
Alors, déjà, structurellement, c'est contre nature. Ce n'est pas comme ça que la religion musulmane est structurée. Donc, cela va être difficile, puisque dans quelle mesure vous pouvez vous retrouver et vous identifier, en fait, à quelqu'un qui va être posé là, entre guillemets, par un pouvoir
extérieur. Ça renvoie aussi des l'islam a ses propres responsabilités.
Oui.
Alors, quand Macron a reçu hier matin le CFCMM, justement, il lui dit, voyez-vous, quelles sont les mesures que vous comptez prendre aussi?
Figurez-vous que le CFCM a réuni son conseil religieux ce matin, Albert Zenou, et a chargé une commission de définir, cite, les grands signes qui permettraient de ne pas faire l'amalgame entre religiosité et radicalité. Je vois acquiescer Mondaire Abdennader. Vous aviez acquiescé aussi quand Nora Hammadi, votre voisine, avait parlé du vrai problème, selon vous, permettez-moi de surinterpréter, c'est le vivre ensemble, fabriquer du vivre ensemble dans ce pays, par-delà ces questions presque trop religieuses.
Ce qui, en fait, choque, c'est qu'on est dans des approches où on critique, dénonce, on revendique, alerte, mais on ne donne pas envie. Alors, ça paraît simpliste, mon discours, mais je crois que la République a besoin de créer plus d'envie auprès de citoyens qui n'en ont plus. Donc ça, c'est ce que je voulais dire et partager. Et donc, pour les musulmans de France, qui sont, j'allais dire, autonomes dans leur pratique, comme le rappelait ma voisine, parce qu'il n'y a pas de clergé, le seul moyen, c'est l'émancipation. C'est-à-dire donner aux gens la possibilité de s'émanciper, ça va être la solution. Alors, l'émancipation par l'éducation, l'émancipation par beaucoup plus de précision quant à l'interprétation ou l'exégèse de l'islam, ne plus laisser l'islam dans des bras étrangers, et le problème du financement. Donc, moi, je pense que la solution, ce n'est pas plus de contraintes légales, mais c'est plus d'émancipation. Et ça prend du temps.
Allez, nous marquons une pause dans ces informés ce soir. La première, à 20h40 sur France Info, avec le rappel de l'info et vous, Justine Dinchet.
Son état de santé psychique interroge, dit le procureur de la République de Bayonne au lendemain de l'attaque devant une mosquée de la ville. Le suspect, Claude Cinquet, 84 ans, a reconnu être l'auteur des coups de feu qui ont fait 2 blessés graves. Il conteste en revanche avoir eu l'intention de tuer. Sa motivation, venger l'incendie de Notre-Dame de Paris, perpétré selon lui par des musulmans. La République fait bloc autour des victimes, réagit ce soir le président Emmanuel Macron lors de l'inauguration du Centre européen du judaïsme à Paris. Les sénateurs votent pour l'interdiction des signes religieux chez les parents accompagnant les sorties scolaires. C'est une proposition de loi Les Républicains qui a peu de chances d'être votée en ces termes à l'Assemblée nationale dominée par la majorité présidentielle. 3 collégiens de 13 et 15 ans mis en examen pour viol en réunion et agression sexuelle à Toulouse, soupçonnés d'avoir sévi en mars dernier dans un parking derrière leur établissement scolaire. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'approcher leurs camarades et leurs collèges. C'est peut-être le dernier, prévient le président du Conseil européen Donald Tusk. Les 27 États membres de l'Union européenne ont acté un nouveau report du Brexit au 31 janvier. Ce soir, au Royaume-Uni, l'opposition travailliste est sur le point d'accepter des élections anticipées au mois de décembre, comme souhaité par Boris Johnson. Seule la date semble poser problème. 3 TGV sur 10 en circulation demain sur l'axe atlantique, 8 sur 10 de jeudi à dimanche, promet la SNCF, alors qu'une grève paralyse toujours le centre de maintenance de Châtillon dans les Hauts-de-Seine.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Allez, je vous propose d'écouter un nouvel extrait de ce discours d'Emmanuel Macron que vous avez pu suivre en direct sur France Info, prononcé devant le nouveau centre européen du judaïsme dans le 17e arrondissement de Paris, en plein contexte de polémique autour du voile au lendemain de cette attaque contre la mosquée de Bayonne. Je vous ai entendu depuis le début de cette émission, tous autour de la table, vous évoquer des faits qui semblent revenir depuis des années, j'allais dire presque depuis des siècles, dans l'histoire, notre histoire commune, évoquée par le chef de l'État Emmanuel Macron.
Alors même que tout conduit à douter, au moment où l'histoire revient avec son pas lourd et la bête quaternaire se réavance pour nous menacer, nous savons que dans ces moments-là, réaffirmer la confiance dans la République et dans ce que nous sommes est plus important que jamais.
Chloé Morin, des siècles et des siècles, cette histoire qui revient, au fond, ce sont toujours les mêmes arguments, et il est nécessaire de remettre au fond ces priorités sur la table aujourd'hui.
Oui, effectivement, ce qui est extrêmement frappant, mais on en parlait tout à l'heure, c'est dans tous les pays, on a l'impression de cycle ou de grand retour en arrière. On pourrait parler de ce qui se passe aux États-Unis, on pourrait parler de ce qui se passe en Italie. C'est extrêmement, extrêmement frappant. Après, oui.
Oui. Voilà. Oui, Albert Zenou, sur cet aspect répétitif au fond de l'histoire, on a la sensation que, et tout à l'heure, Mander Abdennader rappelait peut-être sans doute des mesures nécessaires peut-être pour lutter contre l'antisémitisme, contre ces attaques contre la communauté musulmane, mais on a la sensation que l'histoire se répète à l'infini aujourd'hui.
L'histoire se répète, ça fait des siècles que ça dure, voire des millénaires. Alors l'antisémitisme a muté quand même, hein, donc c'est plus l'antisémitisme d'avant-guerre, d'extrême droite, classique. Il existe toujours, il perdure lui aussi, hein, mais il est plutôt résiduel. Aujourd'hui, c'est un antisémitisme plutôt religieux, plutôt venu de certaines banlieues, d'une communauté de rang radicalisé, d'islamistes radicalisés. Donc ça vient plutôt de là aujourd'hui, c'est l'antisémitisme en France qu'on subit. Donc, mais oui, il y a la nécessaire éducation, le retour sur l'histoire. Mais je reviens à ce que disait Mander, très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, je pense que pour l'islam, l'important, c'est la sécularisation, oui, de l'islam. Il faut pouvoir sortir un peu de... Alors, c'est pas facile, l'histoire ne s'est pas faite, ça ne se fera pas en un jour, mais je pense qu'il faut aller vers ça.
Mais alors après, c'est ça qui est assez fondamental, c'est qu'on a le sentiment, en fait, qu'il y a un retour du fait religieux. Or, à mon sens, les études démontrent qu'en fait, il n'y a pas un retour spécifique du fait religieux. En Europe, les gens n'ont jamais été aussi sécularisés. Les gens abandonnent la pratique religieuse. Il s'avère juste que, et c'est là où je vais rejoindre mon air là-dessus, c'est que chez une partie de la population qui, elle, s'affiche dans une pratique religieuse, elle est de plus en plus orthodoxe, elle est de plus en plus radicale dans l'affichage. Donc, de fait, aujourd'hui, les fractures, les tensions dans cette tectonique des plaques, en fait, qui est une question, en fait, véritablement identitaire et qui pousse aujourd'hui à avoir des suprémacistes blancs qui ont ce sentiment, en fait, d'être complètement dépossédés, en fait, de leur identité. De l'autre, vous parliez de la religion musulmane qui est extrêmement dynamique. On n'évoque pas aussi la question des évangélistes, hein. Je rappelle que dans le 93, ils s'ouvrent des temples toutes les semaines. Et sur ces questions, en fait, aujourd'hui, moi, je pense que la question, en fait, effectivement, de l'éducation, qui a été aussi abandonnée autour de ces questions, de l'éducation populaire aussi, fait qu'on a cette espèce de sentiment d'histoire qui bégaye. Elle va même bégayer jusqu'au point où on aura peut-être un secrétaire d'État aux questions migratoires. Enfin, c'était
un monsieur,
Besson.
Un monsieur
Éric Besson.
Un monsieur religion.
Voilà.
Et puis, pendant ce temps, eh bien, les débats se poursuivent. Cela s'est passé au Sénat. 163 voix contre 114 pour interdire le port des signes religieux chez les accompagnateurs ou trices lors de sorties scolaires. Aucune chance d'aboutir puisque la majorité à l'Assemblée nationale va s'y opposer. Je vous propose d'écouter rapidement les deux arguments, ceux de Jacqueline Eustache-Brignaud, sénatrice LR du Val-d'Oise, qui a porté le texte.
Il apparaît clairement à toute personne douée d'un minimum de bon sens que les sorties scolaires font partie intégrante du temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre du service public de l'éducation. Les accompagnateurs des sorties, qu'ils soient ou non parents d'élèves, ne sont pas des usagers du service public, mais bel et bien des collaborateurs bénévoles du service public, assimilés au personnel d'éducation et par conséquent astreints au respect de la neutralité de ce service public.
Voilà pour les arguments de cette proposition de loi des Républicains et la réponse du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer.
Il est inimaginable qu'une loi vienne imposer quoi que ce soit en la matière. En allant au-delà du nécessaire, une loi serait aussi contre-productive, parce qu'elle enverrait un message brouillé aux familles. En effet, nous voulons rapprocher les familles des écoles, et c'est là la meilleure chance d'accomplir le projet républicain. Car ce que la République veut pour ses enfants, c'est qu'ils puissent grandir, s'épanouir, et finalement atteindre l'âge adulte grâce aux lumières que donne l'éducation. Nous devons envoyer aux enfants le message que les parents sont les bienvenus, et que c'est ensemble, parents et écoles, que nous assurons leur éducation.
Très intéressant cet échange, Chloé Morin. Apparemment, le gouvernement, par la voix du ministre de l'Éducation, ne veut pas légiférer une fois de plus sur ces questions.
Oui, alors ce qui est frappant et ce qui rend le débat encore plus enflammé, c'est que depuis tout à l'heure, on parle un peu de toutes les religions. Faut savoir que en termes d'opinion publique, elles sont pas du tout placées sur un pied d'égalité. Lorsque vous posez la question aux Français si la religion catholique ou juive pose un problème dans la société, ils sont une immense majorité à dire qu'il n'y a pas de sujet et que c'est compatible avec les valeurs de la République, alors que l'islam, on sait que les perceptions sont beaucoup plus négatives. Juste pour vous donner deux chiffres, 41% des Français considèrent que l'islam est incompatible avec les valeurs de la République et 71% pensent que l'islam cherche à imposer son mode de fonctionnement au reste de la société. Et donc, il y a une présomption des perceptions négatives, une présomption de prosélytisme, j'allais dire. Le voile est vu effectivement comme un symbole par beaucoup de refus du vivre ensemble dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, c'est ça qui rend le débat aussi compliqué, c'est-à-dire que on est face à des perceptions qui sont majoritairement négatives et qui rendent le débat extrêmement émotionnel, parfois biaisé, parfois difficile à mener d'une manière apaisée et rationnelle.
Avec toute la difficulté entre la perception des choses et le réel, c'est ce qui est posé depuis de longues semaines sur la table. Mais pour l'heure, on va passer on va marquer une petite pause. 20h50 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Justine Dinchet.
La République fait bloc autour des victimes, déclare ce soir le président Emmanuel Macron. Réaction à l'attaque d'une mosquée de Bayonne hier. Les deux hommes touchés par balle sont toujours hospitalisés mais hors de danger, selon le procureur de la République. Le suspect Claude Saint, qui est 84 ans, a reconnu être l'auteur des coups de feu. En revanche, il dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Il voulait venger la destruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, perpétrée selon lui par des musulmans. Au vu de ses propos, un psychiatre doit déterminer s'il peut être tenu responsable de ses actes. Un mois après, l'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen est confiée à trois magistrats du pôle santé du tribunal de Paris. Ce sont eux qui conduiront les investigations. Enquête ouverte notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Le budget 2020 de la Sécurité sociale, il a été adopté cet après-midi en première lecture à l'Assemblée nationale. Si les députés La République En Marche et Modem ont voté pour, les autres groupes s'y sont majoritairement opposés, se disant inquiet par la situation dans les hôpitaux. Le successeur numéro 1 du chef du groupe État islamique a été tué lors d'un raid américain le week-end dernier, annonce de Donald Trump, deux jours après la mort en Syrie d'Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe djihadiste. En football, 16e de finale de la Coupe de la Ligue ce soir, Nîmes, premier qualifié pour les 8e de finale, victoire 3-0 face à Lens. Bordeaux, Dijon, match qu'on suivra à partir de 21h05 ce soir.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà, nous avons consacré une large part de ces informés à ce discours du président de la République lors de l'inauguration du tout nouveau centre européen du judaïsme. Le chef de l'État, faut-il le rappeler, qui a commencé son intervention avec cet hommage, ce soutien aux victimes hier de l'attaque contre la mosquée de Bayonne. À ce sujet, ce matin, Adrien Quatennens, le député La France Insoumise du Nord et porte-parole de LFI, était l'invité de France Info. Il a été questionné au sujet de cette attaque de la mosquée de Bayonne, du climat en général autour de la polémique sur le voile. Écoutez ce qu'a répondu Adrien Quatennens.
Moi, ce qui m'intéresse par-dessus tout, et face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est l'unité du peuple français. Voilà. Et je crois que cette unité, elle a été mise à mal ces dernières semaines par des discours qui ont finalement accentué la confusion. Où on est passé, souvenez-vous-en, d'un débat sur l'immigration, au lien très rapidement fait avec la religion. La religion et sa critique légitime, elle-même confondue avec le communautarisme.
Qui est en cause ?
Lui-même confondu avec la radicalisation ou le terrorisme, alors que tout ça sont des sujets qu'il faut traiter avec raison. Et je forme maintenant le vœu d'un apaisement. Nous avons besoin de nous retrouver, de nous serrer les coudes, et nous avons des défis à relever qui nécessite que les Français soient unis dans la période, et j'espère que le climat va changer rapidement.
Adrien Quatennens avec Marc Fauvel et Jean-Jérôme Bertolus sur France Info. Nora Hammadi, apaisement, dit cet élu de la France insoumise. Peut-être qu'il faut s'arrêter sur ce mot, c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui.
Il y a clairement besoin, en fait, que il y ait une forme de, enfin, qu'on redescende en pression sur ces questions. On a donc l'attaque à Bayonne. Je rappelle juste qu'il y a quelques mois, il y a eu un massacre à Christchurch en Nouvelle-Zélande où on a des dizaines de morts et un suprémaciste qui s'est donc, après avoir lu Renaud Camus et après une visite en France, s'est dépêché de tirer en fait un jour de prière dans une mosquée. Honnêtement, c'est possible. Il faut s'attendre peut-être à ça. Donc la parole politique, surtout quand elle est portée en fait au plus haut, que ce soit par Jean-Michel Blanquer quand il dit que le voile n'est pas souhaitable, quand on a voilà des discours qui peuvent être parfois blessants, stigmatisants pour une partie de la population, peut aussi alimenter en fait des discours de haine et des envies. Comme on a pu le voir hier à Bayonne, qui peuvent être dramatiques. Donc, il ne faudrait pas que, à terme, on arrive en fait à cette situation-là et que, par ailleurs, de l'autre côté, il y ait des contre-attaques entre guillemets. Enfin, voilà, ces discours de haine peuvent nous conduire à des moments qui sont délicats.
Oui, Cléo Morin. Oui.
En termes de d'opinion publique, on sait que le discours d'Adrien Quatennens correspond à une réalité, c'est-à-dire qu'on sait que il y a des amalgames extrêmement forts qui sont faits entre immigrés, réfugiés, terroristes, musulmans, etc. C'est des liens qu'on mesure en termes d'opinion publique.
Albert Zénou, vous pensez?
Par exemple, il y avait une étude qui a été faite en 2016 dans de nombreux pays par le Pew Research Center qui montrait que les Européens étaient près de la moitié des Européens considéraient que les réfugiés, l'arrivée de réfugiés sur leur territoire, donc c'est pas que les Français qui considèrent ça, c'est vraiment l'arrivée de réfugiés sur leur territoire accroissait le risque terroriste.
Oui, mais ça faut bien le déconstruire.
Albert Zénou, est-ce que vous pensez, il nous reste peu de temps que la confusion des discours et l'accumulation des événements peuvent provoquer une sorte de passage à l'acte quand on aurait pu le voir éventuellement à Bayonne? C'est ce que disent certains élus. Hein.
Il y a toujours des esprits faibles sur lesquels certains discours peuvent toucher. Maintenant qu'on accuse Jean-Michel Blanquer de dire, quand il dit que le voile n'est pas souhaitable, il n'a pas dit que le voile devrait être interdit. Et c'est un sentiment qu'il dit personnel, que le voile n'est pas souhaitable. Moi, je considère que, c'est pas moi de dire s'il doit être souhaitable ou pas, mais en tout cas, on ne peut pas lui reprocher à lui d'installer une guerre des religions. Enfin, le problème du voile, c'est que, est-ce que c'est simplement une prescription religieuse? Bon, certains en doutent. Est-ce que c'est un signal faible d'un début de communautarisation?
Enfin, un objet politique.
Mais en tous les cas, c'est aussi bien que les femmes. Je pense que beaucoup de femmes le portent de façon totalement volontaire et c'est une décision personnelle. Mais il y a aussi une dimension politique au voile.
Mandaire Abnader, pour conclure sur cette heure consacrée à ces polémiques aujourd'hui, à ces questionnements autour du fait religieux, que diriez-vous ce soir? Apaisement aussi?
Apaisement, il faut faire attention à ne pas trop stigmatiser une partie de nos citoyens, musulmans en l'occurrence, qui sont pris en étau entre un radicalisme inquisiteur qui peut les contraindre à une interprétation mauvaise et une forme de xénophobie liée à ces amalgames que Chloé décrivait tout à l'heure.
Noura m'a dit, il est l'heure de conclure. Hein. Encore un mot, je vous sentais un petit peu agacé.
Non, mais parce qu'en fait, effectivement, l'idée n'est pas de dire en fait, que Jean-Michel Blanquer a ouvert une guerre civile entre musulmans et...
Voilà,
non,
vous allez vous
c'est juste que,
rejoindre là-dessus.
Oui, ouais. Non. Le propos est juste que, voilà, dans l'idée d'instrumentaliser en fait, la laïcité pour porter des discours de haine vis-à-vis d'une partie de la population, qui parfois peut aussi se sentir stigmatisée et qui, du coup, reprenons cet enfant qui était avec sa mère donc à Dijon, là, il ne faudrait pas non plus en fait, que par ces humiliations, on en finisse en fait, par aller alimenter cette forme de radicalisation, ce qui serait dommage.
Allez, il faut conclure. Vox Pop dimanche prochain.
Vox Pop dimanche, oui, mais on peut regarder, si on n'a rien compris au Brexit, la 200e en replay qui était ce dimanche et qui est extraordinaire. Je conduis à gauche.
À revoir voilà. Et à revoir. Albert Zénou, la une du Figaro demain.
Un tout autre sujet sur la France qui se mobilise pour une intelligence artificielle éthique.
Merci donc à Nora Hammadi, Chloé Morin, Albert Zénou et vous, Mondaire Abdennader, d'avoir participé à cette édition spéciale des Informés de France Info, essentiellement consacrée à ce discours du chef de l'État au Centre européen du judaïsme et à la polémique autour du voile. Merci, bonsoir, à demain pour une prochaine édition des Informés de France Info.